et une semaine dans un site touristique culturel, un vrai site de patrimoine du Limousin tout au long de cette semaine. Nous sommes ici installés à Chaigné, la tuilerie de Pouligny. Nous sommes au nord de la Creuse et cette tuilerie de Pouligny, nous allons la découvrir avec le directeur des lieux, Pierre Vessex, qui nous accueille. Ce site de la tuilerie de Pouligny, d'abord, il ne remonte pas à avant-hier.
Tout à fait. La tuilerie de Pouligny est fondée en 1830 par le premier tuilier qui s'appelle Jean Monsieur et ça va rester dans la famille. Alors deux générations de Monsieur, puis deux générations de Monsieur Trigot. Ça conduira la tuilerie de sa naissance en 1830 à la fin de son activité en 1962.
On a des photos qui témoignent de l'état de cette tuilerie avant qu'elle ne soit reprise et réhabilitée.
Alors les photos qui sont là sont symptomatiques de l'état alors de la tuilerie en 1994, mais aussi de toutes les tuileries creusoises ou limousines après abandon. Le principe, c'est que généralement, quand elles ont fini leur activité, elles changeaient de métier, elles rentraient dans le domaine agricole. Donc généralement, le nouveau propriétaire récupérait bien souvent les tuiles pour un réemploi sur des maisons ou sur des hangars agricoles. La charpente, certaines fermes pouvaient être récupérées pour être réutilisées dans des hangars agricoles. Sinon, techniquement, soit elles étaient laissées à l'abandon sans tuiles et donc en 5-6 ans, les charpentes s'écroulaient et disparaissaient. Soit sinon, c'était scie et tronçonneuse et ça finissait en bois de feu.
Qui a décidé de redonner vie à cette histoire du Limousin ?
Les habitants des deux cantons, là, du canton de Bonnat et du canton de Château-Malvallée, qui au départ travaillaient un peu chacun de leur côté. Et le moment venu, parce qu'une structure intercommunale s'est créée, qui s'appelait l'Association de développement du pays de Bonnat-Château-Malvallée, elle a réuni tous ces passionnés dans une commission patrimoine et culture. Et donc là, ils se sont aperçus que chacun de leur côté travaillait sur des tuileries et que là, miracle, on pouvait travailler tous ensemble. Il a fallu qu'à un moment donné, une commune de ces 23 communes se positionne pour acquérir une tuilerie. Et le maire de Chaigné, Gilles Godon, et sa première adjointe de l'époque, Gisèle Blanc, qui est vraiment la maman du site et qui a porté le projet tant qu'en tant qu'habitante du secteur, mais aussi en tant qu'élu. Ils ont été voir leur conseil municipal en 1994. Ils leur ont, entre guillemets, vendu qu'on arriverait à créer un musée qui serait là pour à la fois sauvegarder la mémoire, sauvegarder le bâti, et transmettre le savoir-faire lié à la terre et au feu. Le principe, c'est que les élus dont je parle, ça le vaut aussi pour le conseil municipal de 1994, mais aussi tous ceux qui se sont succédés, sont des enfants d'un site qui s'appelle le Moulin de Pio. Alors quand je dis que ce sont des enfants, ce sont des gens aujourd'hui, ce sont des grands-enfants qui ont entre 55 et 75 ans, mais qui, quand ils avaient 20 ans, ont connu un site. Et ce site, c'est le Moulin de Pio, porté par Charles Charey, son nom de combattant, et ça a été son nom aussi pour tous les gens qui ont fréquenté le moulin, c'était le tonton Charey. Il a fait venir, après la Seconde Guerre mondiale, des jeunes de tous les pays du monde pour travailler ensemble à l'amour et la fraternité, la paix entre les peuples. Et quand il s'est agi de lancer le projet de la tuilerie, il était tout à fait pour eux inconcevable qu'il n'y ait pas une notion de rencontre internationale, d'échange de savoir-faire, de partage, mais aussi tout un travail, un lien social dans le cadre du projet.
Dans l'esprit peut-être de ceux qui ne connaissent pas le site, on pense tuiles et uniquement tuiles.
Le site s'appelle la tuilerie de Pouligny, mais l'écomusée qui est posé et qui s'appelle l'écomusée de la tuilerie de Pouligny fait référence à deux grands axes. Le premier, c'est les tuiles et les briques, et c'est normal puisque c'était le lieu de travail des tuiliers briquetiers, parce que la Creuse était une terre de tuiliers et de briquetiers, et le Limousin aussi, même si aujourd'hui on l'a un peu oublié. Et l'autre grand axe, c'est les potiers, le travail les mains dans l'argile pour faire des pots. C'est quelque chose qui est très très important jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle sur le canton dans lequel on se trouve, avec notamment une production qu'on retrouve un peu en Haute-Vienne, qui est la production des épis de faîtage, notamment au sud de la Haute-Vienne. Et c'est la deuxième zone en Limousin où on fabrique des épis de faîtage qui, ma foi, partaient d'une petite commune voisine qui s'appelle Mortrou et qui ont inondé tout le sud de l'Aquitaine et puis jusqu'en Provence sur les toits des maisons.
On est aussi dans un site qui propose des animations avec notamment cette première salle par laquelle on passe et qui s'anime avec un décor, des vidéos. Là, on va apprendre ce qui est à la base, c'est l'argile.
Là, c'est l'argile, c'est surtout la salle d'introduction à la visite. On parlait tout à l'heure du problème de la tuilerie et qu'est-ce que c'est que la tuilerie, et on n'imagine pas bien ce que peut être le musée. Cette salle-là, c'est une sorte de petite machine à laver qui va permettre d'enlever les préjugés, qui va permettre de comprendre dans quel lieu on rentre et qu'est-ce qu'on va voir derrière, c'est-à-dire à la fois la rencontre de l'homme et de l'argile, les tuiles, les briques, les pots, mais pas que, puisqu'on s'aperçoit qu'à la fin du spectacle multimédia, on aperçoit un petit satellite qui dit qu'aujourd'hui, ma foi, on en a même sur les ailes des navettes spatiales et sur le bouclier thermique des fusées.
L'homme a d'abord découvert et maîtrisé le feu. Il a su le faire naître, puis l'utiliser pour cuire cette matière souple et en figer une forme.
Juste parce que c'est vrai qu'on, quand on pense parfois musée, on dit ça va être rébarbatif, barbant. Là, le film est assez court, très clair, va vraiment à l'essentiel. C'était une vraie volonté. Hein.
C'est un film qui dure 5 minutes et qui permet aux gens de très rapidement faire un bond, on va dire, de moins 10 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour ça, 5 minutes, ça va très vite. Mais on voulait quelque chose de très ludique avec des effets visuels et puis surtout des images qui parlent bien aux gens en insistant bien sur ce qu'on connaît, comme la faïence, la porcelaine et le grès qui parlent bien.
Et puis pour terminer, en sortant de cette petite salle, après avoir parlé et évoqué l'argile, on peut la toucher sous toutes ses formes.
On l'a brute telle qu'on va, l'argile brute telle qu'on va pouvoir la trouver dans les sous-bois. Ensuite, on l'a telle qu'on la croisera au niveau de la machine quand elle est broyée et ensuite elle sert à faire la brique ou la tuile. On a le petit morceau qui sort de la machine qui est sec. On s'aperçoit que ça commence à être résistant. C'est ce fameux petit morceau. Si on le trempe dans l'eau, ça redevient de la boue. Et si on le fait cuire et on arrive aux environs de 1000 degrés, on s'aperçoit que ça devient rouge brique. Donc là, on a un petit morceau de tuile qui est parfaitement cuit. Et puis, si on insiste encore vraiment, on s'aperçoit qu'on a une dernière couleur, c'est le mauve. Là, le mauve, c'est trop cuit et totalement inutilisable.
Donc ça, c'est les différentes étapes. Mais enfin, il faut un petit peu de temps, on va le voir, pour passer de l'argile brute à l'argile cuite. C'est ce qu'on va voir dans nos prochains rendez-vous. Et nous sommes tout au long de cette semaine installés à Chénier, dans le nord de la Creuse, précisément sur le site de l'écomusée de la tuilerie de Pouligny. Nous sommes avec Pierre Vessex, qui est le directeur du site ici. Là, on est en face de la maison de ce fameux Jean Monsieur, qui était le premier tuilier dont on parlait hier.
Tout à fait. Là, on est face à la maison qui a été bâtie aux environs 1830. Alors, face à la maison, c'est une ruine. Hein. Il reste que des pans de murs, parce qu'elle était tellement dégradée. Et le seul problème, c'est que si celle-ci n'a pas pu être entièrement réhabilitée, c'est que nous n'avons aucune vue, ni en plan, ni en photo. Donc on n'a aucune idée de ce à quoi il pouvait réellement ressembler. On voit bien qu'il y avait deux fenêtres, une porte, c'était la zone où le tuilier vivait. Et la partie la plus importante, c'était certainement l'endroit où il mettait son cheval et sa vache. Mais par contre, on ne peut pas reconstruire, aurait été faire quelque chose sans vraiment savoir où on allait. Donc on a préféré la laisser simplement comme ça, à l'état de ruine, en consolidant et en cristallisant ce qui restait.
Mais la volonté, en tous les cas, de garder vraiment la trace de ce patrimoine.
C'était en sauver une. On en a compté jusqu'à 160 en activité dans tout le département. Et c'était arriver à en sauver une, et en sauver une avec toute son âme et toute l'histoire des gens qui avaient vécu là. Il en reste deux, des personnes qui ont vécu là et qui ont aujourd'hui plus de 80 ans. Mais quand on parle avec eux, c'est effectivement un travail qui aujourd'hui rebuterait n'importe quel être humain. Mais quand on parle avec eux, on voit l'amour transparaître dans le geste, dans le regard par rapport à la matière. Ils adoraient ce qu'ils faisaient, même si ce travail était un travail de titan et un travail totalement impossible à réaliser aujourd'hui.
Juste derrière, par contre, la maison donc de Jean Monsieur, ça c'était, on voit que c'est une bâtisse qui est beaucoup plus récente. Elle a une histoire, elle aussi.
Alors cette bâtisse, alors il y a le Jean Monsieur 1, c'est la première bâtisse. Il aura un fils qui s'appellera Jean Monsieur 2.
On faisait simple à l'époque.
Voilà. Et donc ce Jean Monsieur 2 n'aura qu'une fille. Et qui malheureusement à l'époque ne pouvait en aucun cas reprendre l'exploitation. Donc ils l'ont marié à un agriculteur qui s'appelle Alexandre Trigot. Et c'est ce Alexandre Trigot qui va bâtir cette maison qui s'appelle la maison des ouvriers. Et il va installer ici une des premières machines à fabriquer des tuiles et des briques du département. Et donc à partir de ce moment-là, il va se retrouver confronté à un problème majeur qui est celui des ouvriers qui ne reviennent jamais chez le même patron d'une année sur l'autre.
Ça, c'était une règle.
C'était une règle d'or. Ça leur permettait de progresser très rapidement d'un point de vue d'argent, hein, et puis surtout dans les grades à l'intérieur d'ouvriers, on pouvait rapidement devenir ouvrier spécialisé et donc gagner mieux sa vie. Et donc à partir de ce moment-là, ce brave Alexandre Trigot s'est mis à former systématiquement chaque année un nouvel ouvrier pour la concurrence. Donc il a arrêté très rapidement et il a bâti cette petite maison où il a mis tout le savoir-faire de la tuilerie, mais surtout il a fixé là son ouvrier en faisant venir sa femme et ses enfants. Donc comme ça, l'ouvrier ne partait plus et il a gardé un ouvrier fabriquant les tuiles et les briques à la machine à demeure.
Et qui avait une proximité de son site de travail, puisque juste à côté, effectivement, on a ces différents pôles. Alors il y a l'aspect fabrication, séchage, l'aspect cuisson également. On va les découvrir tout au long de nos prochains rendez-vous. Simplement, on s'arrête peut-être, puisqu'on parle des bâtiments, sur leur physionomie qui est assez particulière. Hein. Là, on a des toits qui descendent quasiment jusqu'au sol. Là aussi, il y avait des intérêts, même la disposition des tuiles, tout a été pensé.
Là, on est sur un site où, dont l'architecture a été pensée pour un seul métier, le séchage de l'argile. Donc, vous avez une maison sur laquelle on aurait enlevé les murs, on aurait pris ces grandes toitures à quatre pans qu'on va poser à peu près un mètre du sol sur des piliers, eux-mêmes reposant sur des morceaux de granit pour empêcher, parce qu'on est en zone humide, pour empêcher l'eau de remonter dans les charpentes et donc de faire pourrir les charpentes. Et à partir de ce moment-là, le but, c'est d'arriver à avoir sous ces toitures une atmosphère à peu près stable en température. Trop vite, l'argile, si elle sèche trop vite, elle se casse, elle se fond. Si elle sèche trop lentement, elle se déforme. Donc leurs problèmes principaux, c'était couper les courants d'air et alors qu'on est directement dans le grenier, faire en sorte qu'on n'ait pas trop chaud. Alors pour ça, c'est le système de couverture qui a été mis en place. On s'aperçoit que les tuiles, elles sont mises à claire-voie. Grosso modo, ils ont enlevé les tuiles. Et donc, on a un petit espace de 5 cm entre chaque tuile. Alors, il pleut pas sous les bâtiments. Mais par contre, plus le soleil tape sur ces toitures, plus vous générez un courant d'air entre les tuiles, entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Et donc, plus on arrive à avoir des températures stables et donc une argile qui sèche pas trop vite. Et les toitures à ras du sol, ça permet de pouvoir couper les courants d'air avec des petites barrières faites avec du genêt et des perches de noisetier.
Et puis, si on salue le travail des tuiliers, on pourra saluer le travail des charpentiers aussi parce que pour supporter ce type de couverture, il fallait une belle bâtisse en dessous.
Il faut vraiment des charpentes très solides parce qu'on a ce système de petites tuiles. Il en faut, alors quand on est sur un bâtiment normal, entre 66 et 70 au mètre carré. Une tuile pèse à peu près 600-700 grammes. Donc imaginez bien, quand vous en mettez 6-60 au mètre carré et que vous avez des toitures qui font pour certaines là 120 mètres carrés, bon voilà quoi, c'est...
Sur notre fermette, on oublie.
Oui, pour éviter qu'il y ait un problème de toit qui fasse un système de ventre mou. Et on a l'impression qu'il y a un système d'aspiration de la toiture vers l'intérieur du grenier.
Ben nous, on va se relever les manches. Et puis dans le prochain rendez-vous, on va se mettre au boulot. Et c'est notre troisième rendez-vous ici installé à Chénier sur ce site de l'écomusée de la Tuilerie de Pouligny. Nous sommes dans le nord du département de la Creuse, je le rappelle, avec Pierre Vessex qui est le directeur des lieux. Et il y a cette phase de fabrication des tuiles, des briques. Et on a ici devant nous les machines de l'époque qui sont assez impressionnantes. Alors pour les alimenter, il faut déjà l'argile. On l'a dit, ça se passe ici, hein, c'est sur site, pas très très loin d'ailleurs, on en a encore les traces.
Dès qu'on arrive dans la partie forestière, on a à la fois le bois et sous les arbres, on a l'argile. Donc, ils creusaient entre les arbres. L'argile était extraite pendant la période hivernale. La tuilerie fonctionnait de la fin du mois de mars jusqu'à la fin du mois de septembre. Durant ce cycle de production, avait environ 15 cuissons. Donc, pour arriver à 15 cuissons, il fallait du bois et de la terre. Il faut savoir que une seule cuisson, ça représentait à peu près 60 mètres cubes de terre à extraire avec des pelles à la main. Pas du tout des pelles mécaniques parce que sinon on aurait mélangé la terre végétale et différentes couches d'argile. Or, seule une couche d'argile sur les deux qui sont sous nos pieds était intéressante. Et la partie bois est nécessaire. Elle était faite avec 3 ans d'avance. Il fallait du bois très sec. Et donc là, c'est 32 mètres cubes de bois par cuisson. Donc ça, il faut le multiplier par 15. C'est du travail hivernal et quand le printemps arrivait et que les ouvriers agricoles venaient travailler dans la tuilerie, à partir de ce moment-là, on commençait la zone de production là où on est aujourd'hui, là, avec cette grosse machine qui est à côté de nous. L'argile arrivait de la partie forestière dans la fosse qui est juste devant nous, elle était basculée par des tombereaux. Là, elle était préparée pendant 3 jours. Malaxé avec de l'eau pendant 3 jours, jour et nuit, avec des hommes qui allaient devoir rentrer dans l'argile et ils en avaient jusqu'au nombril à peu près.
C'est très très bon pour la peau, il paraît. Donc.
Le problème, c'est que c'est très pratique quand on veut se débarrasser de quelqu'un. On peut le planter dans l'argile. Toute personne qui a laissé une botte sait que l'argile est très amoureuse et qu'elle garde tout ce qu'on lui donne. Donc là, le principe, c'est que pour ne pas rester englué dans l'argile, c'était d'abord de travailler presque pieds nus. Ils avaient juste des sandales de bois sous la plante des pieds pour pas se blesser quand ils travaillaient avec des pelles. Un short, un petit t-shirt, une ceinture de cuir, une pierre pour affûter leurs pelles, parce qu'il faut que ça tranche, une pierre à affûter. Et alors par contre, le seul moyen de ne pas rester englué, c'était de se tartiner de saindoux, de la graisse de cochon, de la pointe des orteils jusque sous les aisselles, et de tartiner aussi la pelle. Et moyennant ça, après 3 jours de travail et de malaxage de la terre, elle était prête à être mise dans la machine, qui elle est entraînée par un moteur avec force électrique depuis 1933 à peu près.
Oui, il y a eu l'avant et l'après électrification. Hein.
Voilà, avant c'était un gros moteur diesel, dont il ne reste que la trace du bloc de ciment sur lequel il était posé. Et tout ça est entraîné par un système de poulies et de courroies qui vont faire que, ma foi, il faut que le moteur tourne à 1100 tours minute pour que la machine se mette en route et commence inlassablement à pousser l'argile vers l'avant. faut imaginer que c'est comme une grosse machine à faire des pâtes. Et donc, on a une grosse hélice qui va pousser inlassablement l'argile jusqu'à l'avant. Et à l'avant, la bouche est grande ouverte de la machine. Il suffit d'y mettre un moule. Et si on met un moule avec une forme, par exemple, carrée, ben on peut faire des tomates, etc. Le banc de terre va circuler sur un petit chariot où il y a des petits rouleaux avec du feutre pour ne pas abîmer le banc d'argile. Et puis, ben, il faut juste régler son fil à couper le beurre. Et puis après, s'armer de patience et d'amour du métier, puisqu'après, ben, on coupe inlassablement. Alors, faut savoir que avant, avec fabrication manuelle, c'est 2000 briques ou 2000 tuiles dans une journée. Avec la machine, c'est 8000 briques et c'est 10000 tuiles dans une journée.
Alors ça veut dire qu'on produit plus, mais il faut un peu plus de main d'œuvre.
Alors ça veut dire qu'il faut plus de main d'œuvre. Alors parce que l'homme qui est là où on se situe aujourd'hui, quand il était devant son chariot découpeur, lui, son problème principal à 6h du matin, c'était d'avoir une brouette à côté de lui. Il avait 2-3 compagnons de terre qui venaient avec des grandes brouettes. Les brouettes, elles étaient chargées d'à peu près 120 kilos de marchandises, puis partaient se mettre au séchage. Le problème commençait à se poser vers 10h30, quand la brouette numéro 1 était en train de déposer sa marchandise, la brouette numéro 2 était en transit, et la brouette numéro 3 était en train de discuter avec la brouette numéro 1. Et là, il était obligé de créer brouette, parce que sinon, il se retrouvait avec un système de terre qui, lui, sort inlassablement, parce que ceux qui sont enduits de Saint-Doux et qui continuent à mettre l'argile dans la machine, eux, ne s'arrêtent pas. Donc là, il avait le choix entre soit rejeter l'argile dans la fosse, mais les collègues qui étaient dans la fosse n'étaient pas forcément d'accord.
Moyennement, ouais.
Soit de le rejeter directement dans la trémie, avec toutes les chances que l'argile qui sort et qui est très compactée ne soit pas redécoupée et vienne boucher la sortie de la filière. Et quand la machine s'arrête, il faut à peu près 1h30 pour la vider et ensuite une bonne demi-heure pour la relancer. C'est-à-dire que c'est grosso modo 2 heures en plus dans une journée qui en dure 12. Donc il passait son temps à hurler brouette pour qu'il y ait tout le temps une brouette à côté de lui et que les gars circulent et aillent poser les produits et revenir les prendre ici à la machine.
Il y avait des formes particulières.
La machine a permis de faire quelque chose que le bras de l'homme ne pouvait pas faire, c'est des produits creux. C'est les années 30, les années 40 où vont commencer à apparaître toutes les briques de cloison, les briques de plafond, et puis surtout les briques de construction, hein, des briques à 9 trous par exemple. Donc cette machine peut le faire, sauf que si on essaie de les empiler dans une brouette, on s'aperçoit très rapidement que d'abord c'est proche de la gélatine et au moindre caillou, au moindre accident, tout s'effondre. Donc là, il faut à chaque fois un produit, un ouvrier qui, avec un outil particulier qui est proche de fourchette, hein, dans certains cas, vient prendre délicatement le produit et va aller porter un seul produit dans la zone de séchage. Là où, avec des briques ou des tuiles pleines, on a besoin de 3 ouvriers, là, il en faut 9.
Et on va parler justement de la zone de séchage dans le prochain rendez-vous. Simplement, on n'a pas trace dans l'histoire de la pause clope ou la pause café à cette époque.
Ah non. Non. Et puis, le patron de tuilier, notamment le dernier patron de tuilier, était un homme avec une force de caractère et qui marquait des maximes à peu près partout. Et là, notamment, par exemple, au niveau de l'endroit où nous nous trouvons, on avait la maxime de l'ordre. C'est de l'ordre, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Et il était tout le temps sur le désouvrier et le moindre défaut, il prenait les produits et les remettait directement dans la fosse à terre.
Mais que faisaient les syndicats ?
Ah non, il n'y avait pas.
Notre quatrième et avant-dernier rendez-vous, j'ai envie de dire déjà, parce qu'il y a tellement de choses passionnantes à découvrir ici, à l'écomusée de la Tuilerie de Pouligny, qu'il nous faudrait 2-3 semaines pour tout vous dire. Le but étant évidemment de vous inviter à venir ici, à Chénier, dans le nord de la Creuse, pour découvrir tout cela de vos propres yeux. Pierre Vessec, vous êtes le directeur du site ici, vous nous servez de guide depuis le début de la semaine. On était sur la fabrication des tuiles, des briques dans notre précédent rendez-vous, et après les avoir fabriquées, fallait les faire sécher.
Ah oui, là, tout à fait, parce que quand la brique, elle arrive là et qu'elle sort de la machine, il lui faut entre 15 jours et 3 semaines pour qu'elle soit sèche. Tout en sachant que quand elle arrive là, tout de suite, son défaut principal, c'est de bien souvent avoir encore des petites bulles d'air, parce que les machines, jusque dans les années 50-60, ne faisaient pas le vide d'air. Donc le problème, c'est qu'une bulle d'air à la cuisson peut détruire une brique. Or, une brique qui explose à la cuisson, elle détruit tout dans un rayon de 20 à 30 cm autour d'elle. Donc si vous en avez une quinzaine dans le four, vous pouvez même faire écrouler le four. Donc pour éviter ça, il va falloir les presser, leur chasser l'air. Mais on peut pas faire ça tout de suite, ça aurait été trop simple.
Bah oui.
Donc on va d'abord les installer une première fois dans des grandes piles où elles sont mises en quinconce, où là le vent va passer entre elles pendant 2-3 jours. C'est le patron de tuilier qui venait appuyer avec son pouce et dès qu'il avait la résistance d'un bloc de savon de Marseille qu'on vient juste d'ouvrir son paquet, il savait là qu'il avait entre 24 et 48 heures en fonction des conditions météo pour repasser tout son stock de 8000 briques, par exemple, dans une presse. Alors les presses, elles sont juste derrière nous. Elles ne pressent qu'une à une. Et donc on s'aperçoit que c'est un système avec un bras à levier, hop, qui va permettre de pouvoir poser une brique et le bras va être lancé une première fois. Le bras va remonter à peu près à hauteur d'épaule. Et donc là, on va enlever, c'est un gabarit, là, on enlève tout ce qui est en trop de la brique. Là, on reprend son élan, on le relance une deuxième fois, on met la brique en dépression d'air, il y aura plus d'air dedans. Là, le bras, il remonte plus du tout. Donc là, on fait à peu près la même taille, là, on s'aperçoit que plus du tout, c'est quand même facilement 1m50 sous nous. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut aller chercher le bras et appuyer légèrement. Cette dernière étape permet à la marque en bronze qui est à l'intérieur de la presse de marquer le nom de la tuilerie et du tuilier. Ne pas appuyer trop fort, parce qu'appuyer trop fort ferait une marque de plus de 2 cm à l'intérieur. En tant que tuilier briquetier, c'est pas bien grave, mais c'est le maçon pour qui le tuilier ou le briquetier a travaillé qui sera pas content, parce que sur la construction d'une maison avec 100 000 briques, c'est 100 000 trous de 3 cm de profondeur, de 5 de large et de 10 de long qu'il va falloir combler. Ça, c'était pas forcément prévu dans le devis.
Évidemment. C'est un peu une machine à muscu aussi, parce que ça pèse un peu une blinde. Faut quand même le préciser, le bras.
Tout à fait. Et ensuite, ça veut dire que pour l'ouvrier qui est dessus, généralement, c'est un ouvrier, ils sont deux, hein. Ils se partagent, hein. Ils font 4 000 briques. Donc, 3 fois 4, 12. 12 000 gestes avec le bras droit.
Pièce par pièce, brique par brique.
Brique par brique.
Alors là, on en a quelques-unes, évidemment, qui sont entreposées pour l'exemple. Mais à l'époque, quand on était à plein régime, je suppose que le hangar était bien plus rempli que ça.
On en avait qui pouvaient jusqu'à 50 000 qui étaient en train de sécher. Là, il y en a à peu près 1 000, donc il y en a 50 fois plus. Donc, il faut imaginer qu'on en avait jusqu'à l'avant. Et là, on en a à peu près sur 8 rangs de haut. On pouvait en avoir sur 16 rangs de haut. En sèche. Alors, on avait celles qui étaient presque sèches, celles qui étaient en attente de pressage et celles qui étaient entre la phase de pressage et la phase de séchage complet pour aller rejoindre le four.
Et voilà, parce que quand ça a été pressé, on se dit pas, allez hop, c'est bon, je vais faire cuire. Pas du tout. On a encore un peu de patience.
Non, là, il y a encore 15 jours en général de séchage. Donc là, il faut les réinstaller sur ces piles. Alors, la pile fait sur une brique de large et elle peut monter sur 16 briques de haut. Et là, elle va attendre doucement que le vent fasse son œuvre et sèche la matière. Le seul problème, c'est qu'au bout de 2-3 jours, la 16e brique, la plus haut perchée, commence à sécher très rapidement et on s'aperçoit que l'ennemi du tuilier, et c'est la gravité, qui fait descendre l'eau doucement et insidieusement vers le bas des piles. Et très rapidement, ben, celle du haut commence à se fissurer, sèche trop vite, et celle du bas gonfle et devient très sombre. Et on voit que les piles commencent à pencher du côté où elles veulent tomber. Donc là, l'occupation principale pendant 15 jours pour la phase de séchage, pour les ouvriers, c'est d'inverser les piles. Ça s'appelait la danse des piles. On voyait les piles qui allaient un coup à gauche, un coup à droite, pendant toute la phase de séchage. Donc là, ça veut dire que vous déplacez vos 8000 briques, donc plus les 8000 autres qui sont en phase de séchage, jusqu'à ce que ce soit sec. C'est vital parce que sinon, ben, vous risquez d'une part faire écrouler les briques, les faire tomber toutes les piles, ça ferait comme des dominos. Et surtout, c'est que vous risquez perdre à peu près 30% de la production de briques qui est à l'intérieur d'une pile.
Le poids, grosso modo, d'une brique, là, par exemple?
Une brique, c'est 1 kg 2, 1 kg 3. Multiplié par 8000, donc ça, on est entre 8 et 9000, 9500 kilos, quoi. Voilà.
Et puis on parle des briques, il n'y a pas que les briques, il y a les tuiles également. Et les enfants qui s'amusent plus aux consoles de jeux en ce moment, les mercredis après-midi, qu'autre chose. À l'époque, les jeudis, on avait d'autres activités pour les jeunes.
C'est-à-dire que la tuile, généralement, la partie plane du corps est faite par la machine. Le crochet de la tuile, ce qui permet à la tuile de tenir accrochée sur le petit lito sur le toit, rien ne remplaçait les délicats doigts des jeunes filles qui faisaient les nez. Donc une première table de filles faisait des petites boulettes d'argile qu'elle trempait dans une bassine d'eau et avec une pointe faisait une croix à l'endroit où il fallait poser la boulette en tête de tuile, poser la boulette, et c'est la deuxième table où les filles avec leurs pouces écrasaient la boulette et avec leurs mains faisaient le crochet de la tuile. 10 000 dans une journée. On peut s'amuser à retourner la tuile et à regarder le crochet. On voit très nettement les traces des pouces.
Et puis, une tuile plate doit rester plate.
Ça, c'était le travail de l'ouvrier en charge du séchage dans la halle de séchage des tuiles. Donc, le problème, c'est que la tuile est plate et aux quatre coins, elle aura tendance à se légèrement sécher plus vite, donc à relever des quatre coins. Donc, il fallait que cet ouvrier, avec un petit banc spécifique, penché en avant sur sa tuile, un petit moule test, il prenait chaque jour à peu près 10 000 tuiles et les plaçait dans son moule. Et si jamais un petit coin de la tuile dépassait, il fallait délicatement tremper sa main dans un seau d'eau, mouiller la tuile jusqu'à ce qu'elle redevienne malléable. Et avec un petit battoir, ça s'appelait un rebattoir, ça s'appelait ce petit instrument, il faisait re-rentrer la tuile dans le moule. Et ça, c'était à longueur de temps jusqu'à ce que les tuiles soient sèches. Et donc, c'est vrai que ça, c'est une aventure humaine et c'est un travail qui fait que tous les gens qui travaillent sur le site ont certainement un regard différent aujourd'hui. Et quand on fait des travaux, même pour soi, hein, de démolition où on change des tuiles, il y a un respect de la matière qui fait que peut-être qu'aujourd'hui, certaines tuiles ne sont pas forcément jetées et certaines conservées si elles sont encore en état.
Dernier rendez-vous déjà, ici à Chénier, installé au cœur de l'écomusée de la Tuilerie de Pouligny, avec Pierre Vessex qui est le directeur des lieux. On va passer donc au bâtiment qui est en face, c'est ce fameux site de cuisson, des briques, des tuiles.
On est du côté foyer, là c'est la gueule du four, et c'est par là que commence le chargement, et c'est de ce côté que se passera la cuisson. Alors pourquoi commencer ce chargement par la gueule du four? Tout simplement parce que techniquement, ce sont des fours qui sont dits à la romaine. C'est-à-dire que c'est un immense espace rectangulaire qui fait à peu près 5-6 mètres de large et qui fait à peu près 8 mètres de haut. Et alors il est, on s'aperçoit qu'il faut descendre, hein, il est un bon mètre 10 sous le niveau du sol. Et on s'aperçoit qu'on a deux carnots de chauffage, deux espèces de petites rigoles. Et c'est tout ce qu'on a. Donc techniquement, dans un four, il faut la sole. La sole, c'est ce qui sépare le combustible de ce qu'on fait cuire. Donc là, il faut la reconstruire à chaque fois pour enjamber ces deux petites rigoles. Il faut entre 4000 et 6000 briques. C'est un jeu de patience. Et le principe, c'est d'arriver à monter. Alors, on fait pas une voûte romane avec une clé de voûte. Là, on est sur un système comme deux tabliers de pont qui avancent et qui se rejoignent. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait un point d'équilibre et que tout ça se bloque bien. Parce qu'à vrai dire, ces arches vont supporter les 30 tonnes de produits qui seront dessus d'eux. Donc à partir de ce moment-là, quand l'arche et les arches sont montées, donc là il faut faire le tour du four, passer par arrière, et à ce moment-là, on commence la charge proprement dit du four, toujours les briques en premier, qu'elles soient pleines ou creuses, et on finit le tiers supérieur du four par des tuiles qui sont plus légères et qu'on met de champ.
Évidemment, et puis pour alimenter ce four avec le foyer, c'était à la main et on était presque direct au cœur du four.
Hein. Là, c'est un peu comme la bête humaine de Zola dans les vieilles locomotives. Faut que le tuilier descende devant la gueule du four, allume son feu dans l'espace qui fait à peu près 2,50 m de long là sur 3 m de large pour pouvoir commencer à chauffer son four. Et là, il va le chauffer pendant 2-3 jours. À partir du moment où ça ne fume plus, là, il va passer du stade fagot au stade bois un petit peu plus important. Et là, on va faire énormément de braise. Et quand je parlais de la bête humaine de Zola tout à l'heure, c'est qu'on prend un grand outil qui est face à nous, là, un grand outil métallique. C'est comme une...
Pour des bons bras déjà.
Voilà, c'est une grande perche en fer avec deux dents au bout et une poignée à l'extrémité droite, là, et donc on va la prendre ça à pleine main, et on va venir pousser, rentrer dans la gueule du four malgré la chaleur pour pousser les braises dans les arches, de manière à remplir les arches de braises. C'est qu'avec ce système-là qu'on arrivera à faire fonctionner le four, puisque les braises vont transférer la chaleur aux briques qui les touchent, les briques vont devenir incandescentes, et la brique la plus près du foyer passera l'incandescence à la suivante, et ainsi de suite. Alors il y a à peu près 30 000 unités à l'intérieur, 32 mètres cubes de bois pour atteindre la cuisson thermale et les 1000 degrés, et à peu près 3 jours de préchauffage, 2 à 3 jours de cuisson, c'est-à-dire qu'on est presque sur une semaine là, ben, sachant que c'est du nuit et jour, hein, c'est-à-dire qu'on ne chauffe pas que la journée, on va pas se coucher la nuit, et il faudra 4-5 jours de refroidissement pour avoir une température, pas pour nous aujourd'hui, mais pour eux à l'époque, on va dire digne et humaine, c'est-à-dire aux environs de 45-50 degrés, pour rentrer à l'intérieur et sortir les produits. Alors là, les produits, on les sort pas un par un, on les sort par poignée, une poignée de tuiles, 10 tuiles, une poignée de briques, 5 briques, qui sont classées en première, deuxième et troisième choix.
Là, il y a le chef hein, qui est là et qui contrôle.
Il y avait toujours le grand chef qui était là, qui prenait en note ce qui sortait. Il y avait un ouvrier qui marquait la quantité. Et ensuite, le patron tuilier qui, lui, fait sa répartition. Quand tout était sorti, outre le fait que nos braves ouvriers ont eu très chaud, se sont bien écorchés les mains, donc ceux-là ne repartaient pas faire ce qu'on a fait depuis le début de la semaine, c'est-à-dire une production.
C'est RTT, là.
Là, ils partaient, non, aux travaux des champs.
Ah oui, c'est autre chose.
Quand même manger, c'est ce qu'on avait dit plusieurs fois. Il faut manger. Donc, ils partaient aux travaux des champs cicatrisés pendant quelques jours, à peu près une dizaine de jours avant de réintégrer une équipe de production. Et donc là, une fois que tout était dehors, les entreprises venaient, les couvreurs, les maçons, chercher les produits. Et donc là, les ouvriers partent, ne restent pas à côté du patron. Ils nous ont expliqué pourquoi, parce qu'ils nous disent bien souvent, le pied droit ou le pied gauche nous chatouillait un petit peu. Quand on entendait toutes les critiques qui s'abattaient sur ce qu'on avait produit avec notre sueur et notre sang, hein, parce qu'il y a des fois, c'était nos brûlures.
Au sens propre.
Au sens propre. Et donc, le maçon cherchait tous les défauts dans les briques, le couvreur cherchait des défauts de teinte, cherchait des problèmes de taille, des petites fissures, tout ça pour payer ça moins cher. Donc, ma foi, quand tout le monde s'était entendu sur le tarif, les ouvriers revenaient pour faire le chargement. Là, le chargement, c'est pas une palette, un emballage plastique, c'était paille, brique, etc., ou tuiles. Et donc, après, les camions repartaient. Ce qu'on sait, par contre, c'est que si la zone de chalandise de la tuilerie était d'à peu près 35 km, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'un chargement de 10 000 tuiles qui part pour la souterraine, on sait qu'on en a 2500 à 3000 de cassés en arrivant sur place, dû à l'état des routes et au mauvais système de chargement. Après, il y a aussi ce qui se perd dans le passage des tuiles entre les couvreurs, les problèmes des nez qui ont été faits par les enfants sur les tuiles pas forcément centrées. Donc on peut avoir jusqu'à 50% du travail qui servait à rien.
Quand on voit la complexité de la chose, on peut leur tirer notre chapeau. Alors évidemment, à découvrir ici des panneaux explicatifs qui reviennent sur tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on n'a pas pu dire malheureusement. Je voudrais qu'on termine simplement sur l'actualité de l'écomusée, puisque on l'a dit, ce n'est pas un musée passif. C'est un site qui est toujours en activité aujourd'hui, et notamment pour une partie poterie.
Oui, le principe, c'est de construire des fours qui correspondent à des savoir-faire. Alors, ce sont tous des fours à bois. Parfois, on remonte jusqu'à la période gallo-romaine. On a sur le site des fours qui sont des fours qui datent du néolithique, donc les premiers fours de poterie. Et on a des fours à l'échelle de la géographie. Certains viennent du Canada, d'autres viennent de Corée. Se croisent ici des artisans potiers, des artistes céramistes. Il y a quelques années, on a eu un grand choc culturel entre les maîtres du grès de Bizen au Japon, avec un trésor national vivant, et face à lui et à son armée d'apprentis, il avait des potiers qui arrivaient du Burkina Faso et qui, eux, travaillaient assis par terre à faire des canaris. C'est ces pots qui servent à transporter l'eau et à conserver la nourriture. Mais c'est aussi avec notamment les scolaires, où on a énormément d'enfants qui viennent et qui sont là pour découvrir la matière et découvrir les arts du feu. Et puis c'est aussi pour les grands, les adultes, des passionnés de thé ou de raku qui viennent faire cuire leur bol à thé et découvrir ce que c'est qu'un four à raku, ou quand vous ouvrez la porte, le feu vient à votre rencontre pour aller chercher quelque part au fond de la chambre de cuisson votre bol. C'est aussi apprendre ici à construire des petits fours avec un peu de papier journal, un pieu d'argile et quelques morceaux de bois, et se rendre compte qu'on arrive à monter à 900 degrés dans son jardin sans risquer de faire brûler et sa maison et le jardin du voisin. Donc c'est tout ça qui fait partie des missions du site.